Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, nous recevons une viticultrice qui est viticultrice à Montady, et qui est donc... Bonjour Émilie.
Bonjour.
Donc Émilie Faucheron, donc vous êtes viticultrice, comme je viens de le dire, et vous avez des vignes, donc sur combien d'hectares? C'est une petite exploitation, une grosse exploitation?
C'est une exploitation moyenne, on a à peu près 60 hectares de vignes.
Bien, alors vous êtes aujourd'hui confrontée à tous les problèmes que rencontrent les viticulteurs. On sait qu'ils se sont rassemblés il n'y a pas très très longtemps à Béziers. Ils étaient assez nombreux et bien sûr, ils étaient rassemblés parce qu'ils rencontrent énormément de difficultés, énormément de problèmes. Donc parlez-nous-en un petit peu, parlez-nous de ce qui est finalement très difficile pour vous, viticulteurs.
Eh bien, en ce moment, depuis quelques années déjà, en fait, on a deux problématiques. Ben, la première, c'est la conjoncture commerciale qui est compliquée et très tendue. Et la deuxième, c'est le climat, où en fait, on voit de plus en plus de changements, des problèmes de sécheresse. Il y a des années, alors selon les secteurs, ça peut être la sécheresse ou les excès d'eau. Et puis après, les autres incidents climatiques, c'est-à-dire le gel, la grêle, etc., quoi.
Alors, vous avez vécu donc des canicules importantes et quelles conséquences ces canicules ont sur le raisin?
Alors, la première, c'est un sèchement des grains, ce qui va entraîner une perte de rendement parce que quand on ramasse des raisins secs, forcément, il n'y a pas de jus et donc pas de rendement. La vigne, quand elle est en stress hydrique, les années qui suivent, elle produise moins de grappes par souche. Donc forcément, ça impacte aussi sur le rendement et aussi la deuxième problématique due à ces sécheresses, c'est que les degrés d'alcool sont beaucoup plus élevés, les taux de sucre sont beaucoup plus importants, donc ça influence sur le taux d'alcool. Et la conjoncture actuelle, on est plutôt sur des vins avec des degrés un peu moins importants qu'avec des degrés importants, donc c'est vrai que cette sécheresse... Ça implique aussi sur la qualité des vins quoi, à certains moments.
Et alors dans la région aussi, ça a eu une grande conséquence cette sécheresse, c'est qu'effectivement on a des restrictions en eau et certains de vos confrères enfin, avaient l'habitude de noyer un peu les vignes. C'était quelque chose d'assez courant dans le coin.
Oui, alors nous on ne le fait pas parce que je n'ai pas les vignes assez près de la mer, mais on n'est pas très loin quand même non plus. Effectivement, sur certains secteurs, ils inondent les parcelles pour faire descendre le taux de sel dans les parcelles. Et là, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, avec le manque d'eau et les restrictions d'eau, il y a certains endroits où ils ne peuvent plus pratiquer ce mode cultural. Et donc, forcément, les pieds de vigne finissent par mourir parce que le taux de sel est trop important.
Alors, effectivement, c'est-à-dire que le sel occupe la nappe phréatique et puis remonte dans les sols et vient saliniser les pieds de vigne, quoi. C'est ça le problème.
Exactement. Et comme la vigne, elle n'est pas faite pour avoir du sel autour des racines, elle meurt.
Et elle meurt, donc même les vieilles, même des rangs entiers sont décimés par cette salinisation.
Exactement.
Bien. Alors, donc ça, c'est les problèmes que vous rencontrez, les problèmes de climat. Donc, vous avez bien sûr, dans un premier temps, essayé de lutter contre ça. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, nous, on a toute l'exploitation qui est en irrigation, en goutte à goutte. Donc, tout est contrôlé. Hein. Bien entendu, on n'allume pas les robinets pour allumer les robinets, sachant que on est payé au nombre de litres d'eau de mètres cubes que l'on va mettre dans nos parcelles. Donc, tout est calculé. Et donc, on a commencé par ça. Ça va faire plus de 10 ans qu'on irrigue nos parcelles, parce que ça fait quand même un moment qu'on a ces problèmes de sécheresse. Et malgré tout, même si on irrigue, ben, une pluie, ça vaut quand même, c'est quand même mieux que l'irrigation, quoi. Et comme il ne pleut pas suffisamment, eh ben, on sent quand même les problématiques qui continuent à s'accélérer, quoi.
Alors, vous, vous avez irrigué. Alors, aujourd'hui, on parle aussi de protéger les vignes avec des panneaux solaires, par exemple, ce qui permettrait donc aux agriculteurs de rechercher, enfin, ça s'appelle l'agrivoltaïsme, et ça permettrait aux agriculteurs ou aux viticulteurs de, à la fois d'avoir un peu un financement via leur production et puis d'avoir un autre financement via la production d'électricité.
Effectivement, alors nous, on est sur le projet depuis plusieurs années parce que tout le côté administratif est relativement très long, quoi.
Alors c'est compliqué, donc, c'est compliqué, ouais, de monter un dossier, voilà.
Ouais, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de normes, les normes sont tout le temps en train de changer, donc on a beaucoup de pertes de temps. Mais en fait, en soi, l'idée, c'est de couvrir, donc le but, c'est de mettre ça sur des nouvelles plantations. Donc avant de replanter, on installe des panneaux solaires, donc de l'agrivoltaïsme, où il y a pas, où il y a une possibilité que toute la terre ne soit pas couverte. Donc c'est-à-dire que là, le but, c'est d'avoir un 33% de couverture, ce qui est très peu en fait, qui est au-dessus des rangées de vignes. Donc le gros avantage, c'est qu'on va éviter aussi tout ce qui est les coups de soleil, sur quoi on est touché chaque saison. Parce que ben, la vigne, sur les grappes de raisin, quand elles sont côté soleil couchant, eh ben, elles attrapent des coups de soleil. Donc ça serait pour limiter ça, pour limiter aussi les évapotranspirations. Et sur certains secteurs, vu qu'ils sont capables d'arriver à mettre aussi des filets anti-grêle, de pouvoir limiter aussi les problèmes de grêle aussi.
Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour vous.
Ben, c'est une des solutions supplémentaires qu'on est en train de qu'on aimerait mettre en place, quoi.
Et alors l'autre solution, qu'est-ce que ça pourrait être? Enfin, vous cherchez, vous êtes tous en train de chercher effectivement comment vous pouvez venir au bout de ces problèmes, quoi. Et d'après ce que vous me disiez quand on a préparé cette émission, c'est que finalement vous souffrez du fait qu'on ne vous donne pas de solution, quoi. Personne n'a la solution pour l'instant.
Exactement. En fait, une des solutions, c'est de dire, ben, on va diversifier, on va partir sur une autre culture, parce qu'on a des problèmes climatiques, mais il y a aussi des problèmes commerciaux, comme je le disais au démarrage, de dire, bon, ben voilà, la consommation du vin baisse, donc peut-être il faut qu'on aille sur d'autres cultures. Mais à l'heure actuelle, il n'y a personne qui est réellement capable de nous dire quoi mettre à la place des vignes, qui soit moins demandeur en eau, puisque ben on a ce problème de sécheresse, donc autant mettre une culture qui est moins gourmande en eau, mais qui soit capable d'être commercialisée, parce que si c'est pour mettre une culture qu'on n'arrive pas à vendre, il n'y a pas non plus d'intérêt non plus pour nous, quoi. Donc voilà, là c'est vrai qu'on est en pleine recherche de solutions pour la diversification et c'est pas simple.
Et on vous a proposé quoi en attendant?
Ah, pour l'instant,
vous hésitez. Non, mais vous hésitez quand vous dites on cherche une culture. On vous a sans doute fait quand même des propositions. Donc, quel type de proposition, quoi? Qu'est-ce qui pourrait remplacer les vignes ici? Parce que c'est quelque chose qui est quand même très. Enfin, ça fait partie du patrimoine du Languedoc-Roussillon, quoi.
Exactement. En fait, ben, c'est là où c'est là où c'est compliqué. Alors effectivement, on pourrait mettre des oliviers, mais les oliviers, pour avoir une production qui est rentable, ben, il faut de l'eau, comme les vignes.
Les amandiers, sans doute, beaucoup d'années pour que ça rende.
Oui, voilà, exactement. Puis bon, en plus, entre les 5 à 7 premières années, ben, l'olivier, il faut qu'il s'implante comme il faut avant qu'il rentre réellement en production, quoi, voire même un peu plus, quoi. Donc oui, non, c'est pas simple parce que même si on part sur des cultures pérennes comme les amandiers, les oliviers, ben, il faut le temps que la culture s'installe, quoi.
Oui, bien
donc
sûr.
Avant qu'elle rentre à l'optimum de production.
Oui, ce sont des arbres, donc forcément, il faut au minimum 5 à 7 ans pour que ça soit productif.
C'est ça.
Et autrement, indépendamment des arbres, vous avez pensé à d'autres choses? On parle par exemple de sorgho, ou on parle d'aloe, on parle presque de production tropicale, quoi.
Oui, exactement. Oui, on est en train de parler de toutes ces cultures-là, mais il faut aussi avoir les marchés qui sont en face. Et pour l'instant, on ne pense pas que les marchés soient suffisamment matures pour qu'on puisse rentrer là-dedans à l'heure actuelle, quoi. Parce que la problématique, on n'est pas les seuls à avoir, c'est plusieurs départements qui sont touchés. Si on change et qu'on rentre dans une production qui n'est pas viable, on ne rentre pas non plus dans nos traces, quoi.
Très bien. Mais écoutez, effectivement, le problème n'est pas simple. Hein. Et puis, même au niveau, par exemple, des cépages qui pourraient être résistants à la sécheresse, pour l'instant, on a très peu de solutions.
Alors, ça existe, des cépages qui commencent à être résistants à la sécheresse. Hein. L'autre, les cépages qui arrivent de Grèce, etc. et tout. La problématique que l'on a, c'est que le problème, c'est que les consommateurs ne connaissent pas ces cépages et ils ne sont pas prêts à acheter ce genre de bouteilles, quoi. Donc, il va falloir aussi éduquer les consommateurs sur les nouveaux cépages, comme les cépages résistants à la sécheresse, aux maladies, etc. Et pour l'instant, c'est encore difficile, quoi.
Bien, bah écoutez, je vous remercie pour ce témoignage, Émilie. Et puis, je vous souhaite surtout beaucoup de courage et de patience, parce que j'ai un peu l'impression qu'en ce moment, même autour de vous, personne ne peut répondre un peu à toutes les questions que les producteurs sont en train de se poser.
Oui, exactement. C'est ça. Bien. On pose beaucoup de questions, mais il n'y a personne en face vraiment pour y répondre.
Très bien.
Parce que
écoutez,
tout le monde cherche.
Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors cette semaine, bien, c'était Nergaïa, et bien sûr, comme d'année en année, Nergaïa renouvelle ses succès. Il y a eu un afflux considérable pour ce cru 2025, et on a beaucoup parlé de toutes les énergies renouvelables, et notamment de l'agrivoltaïsme. Mercredi matin, il y avait une conférence qui avait été organisée par Texsol pour fêter les 20 ans de plein soleil, et qui faisait le plein, une palette exceptionnelle d'experts et de pionniers des ENR qui ont fêté ensemble eh bien, cette longue marche des voies fondatrices jusqu'à la transition énergétique d'aujourd'hui. Ils ont réfléchi à comment bâtir les conditions d'un mode défavorisé, défossilisé, excusez-moi. Et ce ne sera pas simple parce que d'ores et déjà, il existe des solutions, mais il faut que tout cela s'organise techniquement, politiquement, juridiquement. Alors nous avons avec nous pour en parler aujourd'hui Maître Fertou du cabinet Gossemont, avocat. Nous l'avions déjà invité l'an dernier, enfin il y a même plus d'un an, pour nous parler un petit peu des débuts de l'agrovoltaïsme qui remportait un grand succès. Maître Fertou, bonjour.
Bonjour.
Merci de vous être rendu disponible pour ce rendez-vous. Donc, je vais continuer un petit peu dans la foulée des problèmes que nous avons rencontrés. Est-ce que, il y a plus d'un an, vous nous parliez d'une loi qui était en cours de fabrication, enfin qui se nourrissait notamment des jurisprudences parce que elle était forcément, elle touchait l'agrivoltaïsme. Bon, on rappelle ce que c'est, cela a été fait ce matin. Hein, ce sont des panneaux solaires qui peuvent être posés très en hauteur sur des arbres ou des cultures et qui peuvent être posés au sol, mais en oblique pour abriter notamment des ovins et même on parle aujourd'hui d'abriter des bovins. Donc ça serait beaucoup, enfin il serait encore beaucoup plus haut. Alors donc on était sur quelque chose en préparation. Est-ce qu'il y a eu des choses nouvelles? Est-ce que le dossier évolue?
On est sur cette nouvelle forme de valoriser l'électricité en même temps de faire une activité agricole dans sa diversité. Le cadre aujourd'hui, il est établi depuis plus d'un an maintenant. Et en fait, là, on le prend en main. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui développent des projets, que ce soit des porteurs de projets d'énergie renouvelable et des agriculteurs, qui préparent les dossiers, qui les déposent auprès de l'administration. Et on est dans ce nouveau cadre, nouveau type de projet, qui bientôt va pouvoir sortir des cartons et on y verra bien plus clair sur les caractéristiques de la filière. Mais aujourd'hui, depuis un an et demi, le cadre juridique est stable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tentative pour déjà le faire évoluer alors qu'il est naissant. Il y a des propositions de loi là, au Parlement. Le Parlement est saisi de nombreux sujets vu sa nouvelle forme et son nouvel équilibre en termes des pouvoirs. Mais l'agrivoltaïsme, aujourd'hui, il y a une stabilité et l'idée, c'est vraiment d'utiliser au mieux les capacités qu'il a et aussi d'identifier aussi ses limites, hein. On est sur quelque chose de nouveau, donc nécessairement
Alors
les choses
justement,
prennent un peu
on
de temps.
va ra en rappeler un peu ces limites, hein, ce qui était un peu fondateur finalement du principe même de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui dépose un dossier doit pouvoir pérenniser sa production, c'est cela.
Oui, tout à fait, il doit y avoir vraiment l'activité agricole est au cœur du projet. Finalement, l'activité, les panneaux sont en arrière-plan, au-dessus, hein, en fonction du point de vue. Mais l'idée, c'est vraiment que le projet soit avant tout agricole, qu'il y ait une démonstration autour de ça sur des critères très précis, que la parcelle soit évidemment dirigée vers une activité agricole et qu'en même temps, bah, les panneaux, ils soient là pour apporter un service à cette activité agricole. Donc on est vraiment sur cette logique-là. Et de toute manière, les critères sont faits de telle manière que l'administration contrôlera si, oui, l'activité agricole est bien l'activité principale du projet.
Et
Pour
pourtant,
toutes les
on
raisons.
a déjà des plaintes, hein. Il y a déjà des communes qui se plaignent de voir débarquer des grands groupes qui sont des gros investisseurs qui achètent des terres, hein, qui achètent des terres notamment d'agriculteurs qui sont un peu vieux déjà, qui sont proches de la retraite, qui sont prêts un peu à brader leurs terres. Hein, et les jeunes agriculteurs se plaignent parce que bien ces terres pourraient être dévolues à la production énergétique et non plus à la production agricole.
Alors sur ce point, il y a un contexte nouveau. Donc j'ai envie de dire tous les acteurs se cherchent. Mais malgré tout, il y a des garde-fous aujourd'hui dans la loi. Il peut y avoir des dérives ponctuelles, ça c'est inévitable
Oui,
hein,
on accuse
dans tous les domaines.
Eiffage, Total Énergie, Sonagri, par exemple.
Après, je n'y rentrerai pas dans ces noms-là, mais dites-vous bien que si tout le monde fait bien son travail, et l'administration y compris, on est sur quelque chose qui est de toute manière extrêmement réglementé. Il n'y aura jamais un projet sans activité agricole, et donc sans derrière un paysan ou un agriculteur qui a une activité. Donc à partir de là, bon, il peut y avoir des enjeux sur le foncier, sur l'accès aux services agricoles, mais à un moment donné, il y aura un juge de paix, bah, ce sera la décision de l'État, du préfet, et qui lui va apprécier au regard du dossier si oui ou non il y a quelque chose qui est suffisant d'un point de vue agricole.
Et vous vous sentez capable, en tant qu'avocat, d'être garant de ces contraintes?
Alors, en tant qu'avocat, ça dépend de quel côté on
Oui,
est.
bien sûr,
C'est
toujours.
l'administration qui est surtout le garant. Mais mon regard, parce que j'ai suivi cette réforme-là depuis de
Je sais,
nombreuses
oui.
années, c'est qu'on est sur quelque chose, il ne faut pas l'oublier, qui est protecteur de l'activité agricole. Il faut bien penser que, avant cette loi, finalement, bah, c'était, entre guillemets, plus facile de faire des projets photovoltaïques qu'aujourd'hui. Et donc, il faut bien comprendre qu'on est sur une avancée de la protection du milieu agricole. Alors après, ça fait une sorte d'effet d'aubaine, un appel d'air. À partir du moment où on a mis un nom, agrivoltaïsme, qu'on lui a créé un cadre juridique, bah, forcément, des personnes se disent, bah, c'est encadré, donc ça veut dire que c'est accepté par l'État. Donc on y va. Mais finalement, quand on regarde les conditions très précises, et je les connais très bien, c'était beaucoup plus facile finalement de développer un projet avant
Il suffisait de le
qu'aujourd'hui pour
déposer
sortir
et
du
puis
projet.
ça a été, c'était fait.
Tout à fait.
Ouais. Alors, effectivement, il y a des choses, enfin des garde-fous, comme vous dites, qui sont en train de se mettre en place. Notamment, bon, il y a un observatoire hein, qui va essayer enfin, qui déjà observe cinq régions, dont la nôtre, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, PACA, Bourgogne-Franche-Comté, La Réunion. Il y a à peu près 1 600 projets qui, aujourd'hui, sont donc bon, sous observation. Alors, sous observation de l'ADEME. Est-ce que, alors on sait que l'ADEME est quand même très favorable à la transition énergétique, donc c'est pas un acteur un peu.
Alors, pour l'Observatoire est vraiment un outil qui donne de la visibilité, sachant qu'en plus, ça répertorie les projets qui ne sont pas que agrivoltaïques. Mais surtout, vis-à-vis de ça, et j'ajoute un garde-fou, les projets agrivoltaïques qui vont être autorisés, on est encore sur l'instruction de dossier, donc ils vont arriver bientôt. il y aura un garde-fou supplémentaire qui fera le contrôle, non pas de l'ADEME, parce qu'elle a surtout un rôle collecteur et observateur, mais un contrôle du préfet. Le préfet, il contrôlera l'activité, et il contrôlera l'activité pendant toute la durée de son exploitation. C'est comme si on venait dans votre maison d'habitation, on vous dit « Ah, vous dites que c'est une chambre dans votre permis de construire il y a 10 ans, bah, je vérifie bien que vous y dormez, sinon bah, je peux avoir quelque chose à dire contre votre projet de maison d'habitation. » Bien, c'est exactement ce qui se passera pour les projets agrivoltaïques, c'est-à-dire que le préfet aura un pouvoir de contrôle après la construction, tout au long du projet, donc on parle de 40 ans quand même, pour s'assurer qu'il y a toujours une activité agricole sur le projet, et que s'il y a des écarts, eh bien, qu'il y a des choses qui devront être rectifiées.
Alors donc, ça, c'est la dimension positive, c'est-à-dire qu'on a une garantie qui est mise par le préfet sur ces 40 années, mais ça peut forcément être aussi négatif pour les investisseurs, par exemple, parce que rien ne peut, notamment dans cette période d'incertitude que nous vivons actuellement en termes de réchauffement.
Alors ça entre en jeu comme beaucoup de projets de toute manière. Aujourd'hui, si vous faites un parc éolien, c'est exactement la même chose. Vous avez la capacité du préfet de venir contrôler tous les ans, annuellement. Je ne pense pas que ça ralentira les investisseurs, et surtout ceux qui sont du secteur connaissent bien ce type de fonctionnement. Et l'idée, de toute manière, c'est que si on fait bien les choses, il n'y a pas de difficulté, il y aura toujours une activité agricole qui sera sur le terrain, mais forcément, c'est à prendre en compte. Mais évidemment, on ne parie pas sur un projet qui, une fois autorisé, pourra avoir des excès en termes de production énergétique et au contraire ralentir la production agricole. On table sur un projet qui est équilibré avec toutes les conséquences que ça a. Moi, pour les investisseurs, je trouve qu'il y a beaucoup de visibilité qui leur est donnée. Il y en a certains qui connaissent très bien le secteur des ENR et qui sont confrontés en éolien à ce type de contrôle annuel, périodique. Pour l'instant, c'est pas ça qui freine la filière et les investissements. Il peut y avoir une baisse d'investissement globale, mais j'ai envie de dire, ça ne touche pas ce secteur-là en particulier, au contraire.
Et puis, par exemple, en ce qui concerne, il y a des associations qui aujourd'hui craignent de voir complètement s'étendre des champs de solaire, notamment on a une association, les prêts survoltés par exemple, qui pensent que de gros investisseurs peuvent créer de véritables lacs d'agrovoltaïsme. Et finalement, la dame nous dit que 1% de la surface agricole française équivaudrait au parc nucléaire à ce que produit le parc nucléaire français. Donc finalement 1% c'est pas énorme.
Et c'est des échelles de valeur. Forcément
si c'est dans nos régions, ça peut être plus.
S'il y a un parc dans une commune qui fait 15 hectares, effectivement, on le voit différemment que si le parc est à 200 km de chez soi. Effectivement, il y a ces ordres de grandeur à prendre en compte. Les deux sont importants, c'est-à-dire le global, c'est-à-dire qu'on considère que finalement c'est très résiduel sur l'activité agricole. On parle de effectivement 1% de la surface agricole utile française. Si on avait un développement qui serait vraiment très important, donc on est vraiment, c'est pas grand-chose, 1%. Et à la fois, il faut avoir la vision locale, hein, toujours faire attention à ça. Évidemment, il y aura peut-être plus dans le sud que dans le nord. Il peut y avoir dans une région plus de projets qu'ailleurs, et puis il faut toujours penser au cumul de tous les projets en même temps. Donc il y a quand même un besoin d'être attentif à la manière qu'on fait les projets, de toute manière, notamment l'intégration paysagère. Ce chiffre de 1%, il ne doit pas cacher les efforts qu'il y a à faire pour l'insertion des projets. Oui. Un projet sur l'échelle du territoire, il peut ne pas y en avoir beaucoup, mais d'un point de vue local, il peut avoir son poids. Et c'est important de l'avoir. Mais effectivement, on ne parle pas de quelque chose qui va révolutionner le monde agricole. On parle de quelque chose qui vient ponctuellement sur des terrains très ciblés, qui n'ont pas beaucoup de rendement ou qui a un vrai besoin pour l'agriculteur, eh bien, d'ajouter quelque chose avec cette coactivité. Mais on n'est pas sur quelque chose qui va effectivement tapisser tous nos paysages agricoles.
Alors moi, j'ai vu notamment sur les îles, comme à La Réunion, que l'agrivoltaïsme est une solution absolument fantastique puisqu'elle permet à la fois de nourrir et en même temps de s'éclairer. Bon, alors effectivement, il peut y avoir des abus. Alors, la viticultrice nous disait que quand même, c'est les maires finalement qui sont submergés un peu par aujourd'hui les dossiers qui affluent et qui mettent du temps parce que comme vous venez de l'expliquer, il y a énormément de choses à prendre en compte.
Alors, c'est pareil, il y a du trompe-l'œil, parce qu'à l'échelle de l'État, il parle de moins de 500 dépôts de demandes de projets agrivoltaïques à l'échelle française. Ce qui n'est pas une submersion quand on la divise entre tous les départements. En revanche, ce que les maires peuvent un peu plus subir, c'est les sollicitations sur des terrains. Ça, c'est possible, parce qu'on est aujourd'hui sur un nouveau cadre, tout le monde doit l'apprivoiser, et il peut y avoir, sur certains territoires, la course au foncier, un petit peu. C'est-à-dire, on gèle les terres, on dit qu'il peut y avoir un projet dans moins de 5 ans, et finalement, après, on va développer seulement si on considère que c'est pertinent. Et c'est peut-être cet élément-là qui fait que les maires aujourd'hui sont un peu submergés de demandes avec des porteurs de projets.
Effectivement, il y a eu une première réaction qui disait il faut d'abord couvrir tous les toits, il faut aussi couvrir toutes les friches, et puis seulement après, on se préoccupera de couvrir de l'agricole. C'est pas tellement quelque chose qui peut être favorable à toutes les régions non plus. Ça, c'est encore quelque chose qu'il faut garder localement.
Oui, et puis c'est un principe. En fait, on peut garder ce principe-là, mais il ne va pas être applicable partout de la même manière. Et en plus, on n'est pas dans un principe d'interdiction. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aujourd'hui d'aller en zone agricole avec un projet agrivoltaïque qui a pour but d'avoir lui aussi une activité agricole. On ne dit pas solariser vos parkings avant d'aller dans les champs. Quelque chose de toute manière qui est extrêmement difficile à mettre en place.
Mais le nouveau cadre réglementaire de la loi APER va peut-être le permettre quand même.
Oui. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, c'est intéressant comme question parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'aujourd'hui, on a des obligations de solarisation de nos parkings, de nos toitures, mais le Parlement et l'État, ils ont plutôt tendance à freiner cet effort-là. Donc il y a aussi une logique nationale.
Et pourquoi alors hein, pourquoi ils freinent alors qu'on est déjà en retard hein.
Très bonne question. Parce qu'il y a des tractations de toutes parts. Certains considèrent que c'est pas forcément très utile. D'autres que.
Il y a la concurrence du nucléaire, il y a la concurrence de ceci, de cela, voilà.
mais il y a beaucoup d'enjeux en cause et même le fait de solariser les toitures et les parkings, ce n'est pas forcément accepté par tout le monde non plus. Il y a beaucoup de nuances dans tout ça.
Très bien. Bon, mais écoutez, en tout cas, ce que vous conseillez, ce qu'il nous faut regarder dans l'avenir, parce que c'est quelque chose qui va bien sûr durer pendant un certain temps maintenant, c'est surtout la mise en œuvre du process et veiller à ce que soit réglé, enfin soit bien, comment écouter les réglementations qui ont été mises en place.
Oui, il y a des opportunités et il y a des opportunités pour des cas particuliers et ça peut, dans certains cas, bien évidemment, concourir à la fois à une bonne activité agricole sur le terrain avec un complément énergétique sans avoir une consommation de ces deux activités, c'est en surplomb, donc c'est l'une au-dessus de l'autre. Donc en plus, on est sur quelque chose d'assez vertueux en termes de consommation d'espace.
Bien, voilà. Eh bien, on va suivre ce dossier et je vous remercie beaucoup pour tous les éléments que vous nous avez apportés aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver. Au revoir hein, et merci encore. À la semaine prochaine, on se retrouve comme on est proche de Noël. Eh bien, on va parler un peu des illuminations des villes. Alors, vous savez qu'il y a eu une réduction il y a 2-3 ans. On a appelé à la réduction de ces illuminations parce qu'il fallait faire des économies d'énergie, parce qu'il fallait arrêter toutes les lumières nocturnes. Et puis, finalement, on trouve aujourd'hui des solutions pour préserver la magie de Noël. Et nous en reparlerons la semaine prochaine.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kg de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur Divergence FM.